Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous. La 7e édition du Forum mondial de l'eau se tient jusqu'au 17 avril en Corée du Sud, un rendez-vous attendu à quelques mois de la tenue à Paris de la conférence sur le climat en décembre prochain. En juillet 2010, l'Organisation des Nations Unies votait une résolution faisant de l'accès à l'eau potable un droit humain. L'eau insalubre pourtant reste et demeure à ce jour première cause de mortalité au monde. 7500 personnes, dont 5000 enfants, meurent chaque jour du fait de l'absence d'assainissement. 1,8 milliard personnes utilisent une eau contaminée par des matières fécales. 2,6 milliards n'ont pas accès à un assainissement digne. Dans les pays en développement, ce sont 90% des pollutions qui sont rejetées sans traitement. Pas besoin de davantage de chiffres pour comprendre les enjeux majeurs liés à l'eau. Regard sur le sommet de l'eau qui s'ouvre donc en Corée du Sud avec nos invités. Alain Boinet, fondateur de Solidarité Internationale, ONG française qui a fait de l'eau la pierre angulaire de son action dans le monde. Bonjour.
Bonjour Marie-France.
Alexandre Tête, chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialiste de la gestion des ressources en eau douce et des politiques de l'environnement, auteur de « L'eau, un bien, un droit, tension et opportunité » aux éditions L'Harmattan. Bonjour.
Bonjour Marie-France.
Et Franck Galland, directeur général d'un cabinet d'ingénieurs conseil ES au carré, spécialisé sur les problèmes sécuritaires liés à l'eau et auteur notamment de « Le grand jeu, chronique géopolitique de l'eau » aux éditions du CNRS. Bonjour.
Bonjour Marie-France.
Solidarité internationale, Alain Boinet, qui se bat dans de nombreux pays depuis 35 ans pour l'éradication de l'eau insalubre, a publié quelques jours avant la journée de l'eau du 22 mars dernier le premier baromètre de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. Vous constatez d'importantes avancées, mais aussi la permanence de nombreux problèmes.
Oui, effectivement. Il faut d'abord souligner les avancées, et c'est vrai que les objectifs du millénaire pour le développement sont un formidable instrument de développement. Mmh. Durant cette période, 1 milliard d'êtres humains supplémentaires ont eu accès à des sources d'eau améliorées, et puis 1 autre milliard à l'assainissement, c'est pas peu de choses. Mais dans le même temps, les besoins restent énormes, d'autant qu'il y a eu tout un débat sur les chiffres, notamment en termes d'accès à l'eau potable, puisque les Nations Unies ont retenu comme critère l'accès à des sources d'eau améliorées, mais que, selon les études qui sont faites, on sait que beaucoup de sources d'eau améliorées ne délivrent pas de l'eau potable. Donc en fait, on pense qu'aujourd'hui, il y a à peu près la moitié de l'humanité qui n'a pas accès à une eau sûre, dont 1,8 milliard qui a accès à une eau dangereuse. Donc le travail reste absolument considérable pour y parvenir. C'est un enjeu majeur aussi parce que l'eau insalubre est une cause majeure de mortalité. Les derniers chiffres que nous avons font état d'à peu près 2 600 000 personnes qui meurent chaque année des maladies hydriques. Que ce soit
c'est
de diarrhée,
l'eau la tueuse choléra. Silencieuse, comme vous l'appelez.
Oui, c'est une hécatombe silencieuse et peu visible, qui mobilise pas assez, puisqu'il s'agit essentiellement d'ailleurs d'enfants et d'adolescents. Donc ce rendez-vous en Corée, au 7e Forum mondial de l'eau, est très important, d'autant qu'on est dans une année majeure, charnière, à beaucoup de points de vue. On vient d'avoir le sommet à Sendai sur la réduction de risques et de catastrophes. On a le Forum mondial de l'eau. Nous aurons en septembre aux Nations Unies les nouveaux objectifs du développement durable 2015-2030 et puis on aura la COP21, donc la conférence sur le changement climatique à Paris fin novembre, début décembre. Donc tout ça se tient.
Même ça fait beaucoup pour 2015 peut-être, non ? Je veux dire,
C'est peut-être aussi une opportunité que cela vienne maintenant avant la décision portant sur les objectifs de développement durable. Parce que rappelons que dans les objectifs du millénaire pour le développement, il y avait 7 objectifs principaux avec des sous-objectifs. L'eau était un sous-objectif, pour prendre cet exemple. Là, ce qu'on appelle l'Open Working Group, qui a travaillé pour préparer les objectifs de développement durable, ils ont défini 17 objectifs, et à notre grande satisfaction, a priori, l'eau et l'assainissement, comme un objectif à part entière. Donc, si vous voulez, le fait que toutes ces conférences aient lieu au même moment, c'est, je crois, plutôt une opportunité, plutôt une bonne chose, parce que ça nous oblige à croiser, à créer des synergies, des dynamiques qui sont décisives, puisqu'après, c'est toute la politique de développement international qui va être définie entre 2015 et 2030. C'est tout juste considérable.
Alors, on sent évidemment un énorme décalage entre pays du Nord et pays du Sud quant aux questions liées à l'eau. Et on a aussi le sentiment que finalement, les deux bords du fossé n'ont pas tendance à se rapprocher année après année. Les priorités ne sont pas du tout partagé. Qu'est-ce que ces forums apportent au débat ? Est-ce que vous êtes optimiste quant aux avancées et aux prises de conscience, Alexandre Tête, Franck Galland, Alexandre Tête ?
Vous l'avez dit, en fait, la multiplication de ces événements en 2015 montre la montée des enjeux environnementaux dans l'agenda international, parce que l'environnement, c'est au cœur des questions de développement, c'est des enjeux sociaux, ça devient aussi des enjeux de sécurité, et c'est plutôt, je crois, une bonne chose, il n'y en a pas trop, mais ça montre la convergence d'intérêts, que ces sujets sont liés, que la gestion de catastrophes, c'est aussi la politique de l'eau, c'est de l'anticipation des crises climatiques, et donc justement, ces forums, dans le passé, ou d'autres événements des Nations Unies, ont servi à sensibiliser les populations, mais surtout les décideurs, à tous les échelons, donc aussi bien nationaux que locaux surtout, qui vont être le support d'actions locales pour relever des défis qui sont peut-être plus globaux et pour lesquels il n'y a pas de solution miracle venue du haut.
Franck Galland.
Je pense que quand il s'agit d'eau et d'assainissement, il y a jamais trop de rendez-vous internationaux, il n'y a jamais autant de rendez-vous nationaux utiles. Moi, j'ai été très, très impressionné de voir notamment qu'au sein même de Davos, dès 2008, des grands patrons ont appelé à la création d'une coalition publique-privée inédite pour résoudre ces problèmes liés à l'eau. Ben, c'est parti d'une initiative d'un homme suivi par le patron de Dow Chemicals, le patron de Coca-Cola, le patron de Rio Tinto, grande compagnie minière. Et quelques années après, on s'aperçoit que ces grands groupes internationaux ont mis en place des politiques drastiques de réduction de leur empreinte en eau. Et ça, c'est une excellente chose. Quand on sait par exemple que les 6 plus grandes compagnies minières au monde ont 70% de leurs projets dans des zones soumises à stress hydrique, ben, il faut à l'évidence que ces compagnies, si elles veulent continuer à travailler, à extraire ces métaux précieux, adoptent des politiques internes de réduction de leur empreinte en eau. Même chose, bien évidemment, dans le domaine de l'agriculture.
Quand vous parlez empreinte en eau, Franck Galland, juste une précision pour nos auditeurs, une image.
Une image, par exemple, pour extraire une tonne de cuivre, il faut 500 litres d'eau. Quand vous savez, par exemple, que 29% des réserves mondiales de cuivre sont actuellement au nord du Chili, dans le désert d'Atacama, où il n'y a plus d'eau, et paradoxalement, à cause du changement climatique, cette zone du Chili a été soumise à extrêmes perturbations il n'y a pas plus tard qu'il y a deux semaines, avec des trombes d'eau, des inondations jamais connues dans ce pays. Donc effectivement, extraire des métaux précieux consomme de l'eau. Produire la viande que nous consommons chaque jour consomme beaucoup d'eau. Des chiffres ont été avancés, notamment d'élevage en batterie aux États-Unis, disant que pour produire un kilo de viande, fallait 15 000 litres d'eau. Eh ben, à l'évidence, ça fait réfléchir l'industrie agroalimentaire et ça doit nous faire réfléchir sur l'évolution de nos habitudes alimentaires. On dit toujours dans nos métiers que le problème se posera quand 1,34 milliard de Chinois se mettront à consommer ce que nous consommons en Occident. Un végétarien, de manière générale, consomme par jour, pour produire les aliments qu'il consomme, 2500 litres d'eau. Bien, un consommateur américain qui consomme effectivement des produits carnés, on est plus à 5400 litres d'eau par jour pour produire les aliments qu'il consomme. Le problème, il est là.
Alors, parler de l'eau, juste pour qu'on fixe un tout petit peu les choses, c'est parler de plusieurs choses en même temps. Franck Galland l'évoquait à l'instant, la question de stress hydrique. On voit ce qui se passe dans l'Ouest américain avec la Californie, on va peut-être en parler. Et puis, évidemment, la Californie n'est pas la seule, il y a d'autres provinces en Chine, au Mexique, dans le sud méditerranéen, où se pose la question de savoir comment ces pays et ces régions en vont faire aujourd'hui, mais d'ici à 30 ans. Il y a aussi la question des eaux souterraines qui sont de plus en plus surexploitées, l'amélioration de l'accès à l'eau potable, vous l'évoquiez tout à l'heure, ou l'accès à l'eau améliorée. Alors ce sera intéressant qu'on précise cette distinction à faire, Alain Boinet, et puis des progrès en matière d'assainissement. Dans chacun de ces grands compartiments, comment est-ce que les choses évoluent? Est-ce que, avec les prises de conscience qui ont cours depuis un certain nombre d'années, les solutions s'améliorent ou au contraire s'aggrave, Alain Boinet?
Alors, elles s'améliorent, elles se sont vraiment améliorées. Alors là, je parle, pour ce qui me concerne, des pays les plus pauvres affectés par des catastrophes naturelles ou des conflits, puisque c'est dans ces pays ou dans ces régions que Solidarité Internationale intervient comme association d'aide humanitaire, d'urgence et de reconstruction. Donc, les progrès sont bien là. La mortalité a beaucoup baissé. Les derniers chiffres que nous avions au moment du Forum mondial de l'eau qui s'est tenu il y a 3 ans à Marseille, c'était environ 3 600 000 victimes chaque année. On est à 2 600 000 maintenant. Mmh. Bon, les chiffres antérieurs dataient plutôt de 2002. Donc non seulement il y a plus de personnes qui ont accès à l'eau potable et à l'assainissement, mais il y a aussi moins d'enfants et d'adolescents qui meurent de maladies hydriques. Donc les progrès sont bien là, mais l'enjeu se retrouve posée à travers différentes problématiques. On pourrait parler par exemple de la question de l'urbanisation et des villes. En 25 ans, Nairobi est passé d'1 200 000 à 3 millions d'habitants. Vous avez 1 million de gens qui vivent dans les slums, bidonvilles de Kibera. Bah, quid de l'accès à l'eau potable? L'accès à l'eau potable, c'est aussi l'accès à une agriculture très locale avec ce que nous on a mis en place, c'est-à-dire des sacs potagers d'1 mètre cube de terre, etc., qui permettent aux gens d'avoir accès à des légumes de manière très simple et pratique. Et on voit bien que si l'accès à l'eau potable s'améliore dans zone rurale, il y a encore beaucoup à faire, il est en train de se réduire dans les zones urbaines. Au moins 80% de la croissance démographique, c'est les villes aujourd'hui. Et dans les villes des pays du tiers-monde, il y a de moins en moins de gens qui ont accès à l'eau potable. Donc là, la tendance est inversée. Donc ça, c'est pas très positif. Voilà, c'est une problématique parmi d'autres. En tout cas, c'est un combat qui doit plus que jamais nous mobiliser, parce que le changement climatique a un impact sur l'eau, sur la puissance des ouragans, par exemple, et donc sur les destructions que ça peut opérer dans un monde de plus en plus peuplé, comme on l'a vu avec le cyclone Haiyan en novembre 2013 aux Philippines, comme on le reverra encore. Donc on voit bien que ce dérèglement, il affecte les populations de manière directe ou indirecte. Il y a l'accès à l'eau potable, mais il y a aussi les inondations, l'élévation du niveau de la mer, et puis des phénomènes naturels qui se trouvent amplifiés, ou des rythmes agricoles qui sont profondément perturbés.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Alors, on reviendra sur les questions de l'impact du changement climatique. Je voudrais qu'on passe quelques instants sur ce que vous évoquiez à l'instant, Alain Boinet, qui est cette tendance qui s'est inversée dans les villes. Avec cette question, je crois que c'est un vrai débat sur la scène publique mondiale. Est-ce que c'est une question de disponibilité en eau ou de gestion de l'eau? Franck Galland.
C'est une question de gouvernance liée à l'eau, c'est une question d'investissement, c'est une question de bon choix, de partenariat. La situation, à l'évidence, s'est améliorée depuis une quinzaine d'années, améliorée depuis le dernier forum mondial de l'eau qui avait lieu en France à Marseille en 2012. Moi, je vais vous donner un exemple très concret qui est celui de l'Algérie. Rappelez-vous cette funeste coulée de boue qui avait emmené des dizaines, voire des centaines de personnes en plein Alger lors d'inondations, ce fameux drame de Bab el-Oued. On prédisait à l'Algérie un avenir noir en matière d'eau et d'assainissement. Jamais un pays en 12 ans n'a autant investi, je vous parle de 2000 à 2012, avant le Forum mondial de l'eau de Marseille, dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. L'Algérie a pris la mesure des enjeux. Le président Bouteflika, le ministre des Ressources en eau de l'époque, Abdelmalek Sellal, aujourd'hui Premier ministre. Et ils ont investi dans de nouveaux transferts. Aujourd'hui, quand vous atterrissez à Alger, vous avez une station de dessalement en baie d'Alger. Ils ont surtout fait de bons choix de partenariat public-privé avec l'arrivée de grands opérateurs. Ce environnement est arrivé en 2006 à Alger. La Société des eaux de Marseille est arrivée à Constantine. Aguas de Barcelona est arrivée à Oran. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les grandes villes algériennes ont de l'eau de qualité potable, H24. Que les grandes plages de ces villes sont de nouveau ouvertes à la population. Voilà, beaucoup de progrès ont été faits. Même chose au niveau saoudien. Hein, les Saoudiens, qui ont longtemps cru que l'eau était comme le pétrole, il y en aurait ad vitam aeternam, ont toujours, par capita, le taux de consommation le plus élevé au monde. Mais très vite, le roi d'Arabie Saoudite, au début des années 2000, a dit que la situation ne pouvait plus durer comme ça, d'où la nécessité de faire venir de grands sachant dans le domaine de la gestion urbaine des réseaux d'eau et d'assainissement, d'où l'arrivée de Veolia sur Riyad, sur les environnements à Jeddah, et peu de gens le savent, la sœur à la Mecque. Aujourd'hui, 5 millions de personnes sont desservies chaque année pendant le pèlerinage du Hajj par les équipes de cette société française. C'est autant que le contrat du syndicat des eaux d'Île-de-France, le plus grand syndicat européen. Donc, vous voyez qu'on peut inverser des tendances.
On peut inverser des tendances, et le pays voisin de l'Arabie Saoudite, le Yémen, dont on parle tant ces dernières semaines, est lui dans une situation absolument catastrophique. Alors, en termes d'eau, Franck Galland.
À l'inverse, c'est un pays qu'on appelait l'Arabie heureuse, l'Arabie verte, qui est descendu aux enfers en l'espace de 30 ans. Ce pays n'a non seulement plus d'eau. En plus, son eau est très inégalement répartie. On parle de moins de 120 mètres cubes par an et par habitant en termes de ressources à Sahana. En 2020, une étude prédisait 40 mètres cubes d'eau par habitant et par an à Sahana. C'est un pays qui a pas investi. Et pire que ça, c'est un pays qui a dévoyé sa ressource en eau. Il y a 20 ans, l'eau, si rare, était destinée à l'agriculture, à produire des denrées nécessaires à la consommation des Yéménites. Aujourd'hui, cette eau à vocation agricole, à 60%, elle est là pour produire une drogue, le khat, qui annihile la société yéménite et l'ensemble de la corne de l'Afrique et de cette péninsule arabe. Donc on voit bien que là, le manque de gouvernance politique, le manque d'investissement est à l'origine d'énormes problèmes. Et pour terminer sur ce sujet, donc on peut certes être optimiste, mais on peut être réaliste aussi. Ces pays du sud méditerranéen, qui rappelons-le, représentent quand même 4% de la population mondiale, cette région héberge 60% de la population la plus faiblement pourvue en eau. Eh bien, ces pays connaissent depuis 5 ans, une crise sans discontinuité, avec une situation de l'eau qui est catastrophique en Libye. Je ne parle pas de la Syrie, je ne parle pas, y compris de la Tunisie, qui a eu d'énormes problèmes, alors que depuis 20 ans, la Tunisie savait gérer de manière très très efficace ses réseaux de distribution électrique, ses réseaux de distribution d'eau. Donc voilà bien, dans cette zone soumise à extrême stress hydrique, le danger. C'est-à-dire, si on n'y prend pas garde, dû aux tensions politiques, tensions sociales et aux guerres, bah, ces pays peuvent très vite aller jusqu'aux abysses.
Alexandre Tête, la notion et la question de gouvernance politique en matière de l'eau, elle est essentielle.
Alors, gérer l'eau, en fait, c'est au cœur du métier politique. C'est arbitrer avec des moyens limités entre des catégories d'usagers différentes et au sein de ces catégories d'usagers, des gens qui n'ont pas le même pouvoir d'achat. Donc, en matière d'eau urbaine, c'est une question essentielle. Savoir créer des solidarités financières entre catégories d'usagers pour pouvoir créer du réseau. C'est qu'en milieu urbain, l'accès à l'eau est davantage une question d'infrastructure, amener ou créer de l'eau potable, recueillir, traiter dans l'idéal de l'eau usée, parce que ces grandes villes qu'évoquait Alain Bouenet, c'est une concentration de besoins en eau, c'est une concentration de pollution, mais c'est une problématique assez particulière. De manière plus générale, la pénurie en eau, il faut avoir conscience que c'est quelque chose qu'on crée artificiellement. C'est une inadéquation fondamentale entre nos usages et la ressource disponible localement. Donc, hormis effectivement l'aspect urbain où il y a une sorte d'urgence à la fois éthique, sanitaire, priorité, où il faut trouver de l'eau. Voilà. La question ensuite, c'est qu'est-ce qu'on fait des usages? Pourquoi est-ce arrivé cette situation où on dépasse la ressource disponible localement? Et cette manière de qualifier la pénurie d'eau permet d'éviter une réponse assez facile qui est de dire on manque d'eau, on va en faire plus, on va en faire venir de plus loin. Et qui crée une approche finalement uniquement de gestion en augmentant l'offre, qui pourtant augmente la vulnérabilité. On arrive à ce paradoxe où des communautés humaines, aussi bien des petites communes ou des États, dépendent de toujours plus d'eau, alors qu'ils sont en zone de stress climatique et hydrique, déjà actuellement et sans doute dans le futur. Et une des clés justement de ça, c'est la capacité politique à agir. Et effectivement, on s'aperçoit que aujourd'hui, le cœur du problème des crises de l'eau, c'est les usages agricoles de l'eau, qui prélèvent 70% de l'eau, qui en consomment 90%. Mais l'agriculture, c'est une plus-value extraordinaire. C'est pas que la richesse que ça produit. Ça fournit du travail à des millions de gens, à des milliards de gens. Ça les, dans le pire des cas, les préserve contre une extrême précarité. Et donc, toucher aux usages agricoles de l'eau, c'est créer potentiellement des instabilités sociales et politiques majeures. Et du coup, ce secteur est difficilement réformable. On a bénéficié dans les pays occidentaux d'un transvasement de main-d'œuvre au moment de l'exode rural entre le secteur primaire, l'agriculture et le secteur secondaire. Aujourd'hui, la plupart des pays en développement n'ont pas ce réservoir de travail à offrir aux populations rurales. Et je pense que la manière dont la population active est structurée en Égypte, par exemple, la part de la population active agricole, explique pendant longtemps les blocages politiques ou ce statu quo qu'a toujours recherché l'Égypte parce qu'elle avait le sentiment qu'elle ne pouvait pas, n'offrait pas de solution à ces gens-là. Et donc, pour moi, l'enjeu de capacité politique est vraiment essentiel. Et c'est une question de priorité. On parlait tout à l'heure d'agenda politique. Et on voit, comme le rappelait Franck Galland, les pays où on a fait de l'eau une priorité politique, où ça a été, on a pris le taureau par les cornes, je pense au Mexique, à l'Afrique du Sud, aux pays du sud de la Méditerranée, on a eu des progrès d'accès à l'eau absolument considérables. En revanche, on a rarement touché l'usage agricole de l'eau. Et il est vrai, je pense à des pays comme le Pakistan, quand vous avez des grands leaders politiques, des grands partis politiques, comme le Parti du Peuple pakistanais de l'ancien président Zardari, qui sont en fait des seigneurs des terres, des landlords, comment réformer les usages de l'eau, qui sont finalement au cœur du partage des pouvoirs? En Arabie Saoudite, il y aura un partage de la rente globale entre le pétrole et le secteur agricole, entre les familles princières, toucher au secteur agricole et du coup toucher à cette rente, alors que l'agriculture saoudienne a été faite à partir d'eau souterraine non renouvelable, parfois puisée à 2500 mètres, à des coûts exorbitants et des coûts énergétiques absolument considérables. C'est pour ça que sensibiliser les dirigeants, à mon avis, est au cœur de la politique de l'eau, de ce qui doit être fait, et c'est au cœur du prochain forum.
Sensibiliser les dirigeants, on en reparlera dans la deuxième partie de l'émission Géopolitique. Nous retrouvons nos invités Alain Boinet, Alexandre Tête et Franck Galland dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur le sommet de l'eau qui vient de s'ouvrir en Corée du Sud. Nous retrouvons nos invités, Alain Boinet, fondateur de Solidarité Internationale, ONG française qui a fait de l'eau la pierre angulaire de son action dans le monde. Alexandre Tête, chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialiste de la gestion des ressources en eau douce et des politiques de l'environnement et auteur de L'eau, un bien, un droit, tension et opportunité aux éditions L'Harmattan. Et Franck Galland, directeur général d'un cabinet d'ingénieurs conseil ES au carré, spécialisé sur les problématiques sécuritaires liées à l'eau et auteur notamment de Le Grand Jeu, chronique géopolitique de l'eau aux éditions du CNRS. Nous avons parlé dans la première partie de l'émission de ce que vous aviez évoqué, Alain Boinet, cette tendance qui s'est inversée dans les villes avec apparemment la situation qui s'est largement compliquée. J'aimerais qu'on évoque cet aspect important des choses qui est la solidarité que vous évoquiez tout à l'heure, Alexandre Tête également, la solidarité entre usagers. De quoi est-il question exactement ?
Eh bien, par exemple, en France, la solidarité entre les différentes catégories d'usagers se retrouve à tous les étages de la facture d'eau. C'est-à-dire que les usagers urbains vont payer pour l'extension des réseaux en milieu rural, où effectivement, relier à un village ou voir des petites maisons serait beaucoup trop cher. Un kilomètre de tuyau, ça peut vite être 80 000, 100 000 euros le kilomètre. Donc on parle de ça à ce moment considérable. Mais également, c'est une solidarité qui s'exprime entre catégorie riche et plus pauvre de la facture. Et dans les pays en voie de développement, je pense à l'expérience qu'avait connue Suez, enfin pas Buenos Aires, sans parler là du débat public-privé, mais lorsqu'il y avait une renégociation du contrat en 97 qui visait à supprimer la taxe infrastructurelle pour les usagers les plus pauvres, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas connectés et qui avaient une taxe d'entrée dans le réseau, mais qui ne pouvaient pas payer, en fait, il s'est avéré que les gens qui étaient plus riches, déjà connectés, ne voulaient pas payer pour les plus pauvres. Et là, la question qui se posait, ce n'est pas une question publique-privée, c'était comment créer politiquement un intérêt collectif à agir et à créer un système qui assure sur la durée la pérennité d'un nouveau service. Et ça renvoie donc à la fois à des problèmes, donc, que j'évoquais tout à l'heure, de capacité à agir, de trouver des règles de compromis et de choix collectifs. Et l'autre enjeu important, c'est valoriser l'eau aux yeux des usagers. C'est-à-dire que bien souvent, on ne se rend pas compte des bienfaits qu'apporte l'eau ou encore l'assainissement. Vous parliez du Kenya à la Boinet tout à l'heure. Faire comprendre que payer pour l'assainissement n'est pas un luxe, mais au contraire, un besoin humain de base, un droit, j'ai envie de dire, est quelque chose. Quelqu'un me rapportait qu'au Brésil, il a vu de ses yeux des gens casser des canalisations d'eau le week-end lors de barbecue pour que les enfants jouent avec de l'eau. Tout simplement parce que l'eau là-bas n'est pas potable et ne sert qu'à laver les voitures, vous voyez, ou aux eaux usées. Et du coup, quand on change de catégorie de service, quand on amène de l'eau potable aux gens, avec tous les bienfaits que ça peut avoir en termes de santé, il faut aussi transformer le rapport à l'eau. Et donc, tout ça est un travail qui relève du pouvoir politique. Et ensuite, j'ai envie de dire, la question du privé et du public est une modalité. Mais sincèrement, ce n'est pas le problème.
Alors, pour aller plus loin sur cette question, il y a un exemple qui fait florès dans la presse française, c'est l'exemple de Singapour. Une ville qui ne dispose que de 35 à 40 mètres cubes par personne et par an. Et c'est vraiment pas beaucoup, parce qu'on estime la pénurie, et je parle sous votre contrôle aux uns et aux autres, à 1000 mètres cubes par personne et par an. Donc là, à Singapour, on est largement en dessous, avec 35 à 40. Est-ce que l'exemple de Singapour est transposable ?
L'exemple de Singapour est très impressionnant parce que Singapour est effectivement vulnérable sur ses ressources, mais a longtemps été vulnérable stratégiquement vis-à-vis de son grand voisin malais. La Malaisie, jusqu'à il y a une vingtaine d'années, fournissait l'essentiel de l'eau consommée à Singapour. Vulnérabilité stratégique d'autant plus que quand la Jama Ismailia a voulu cibler cette conduite au début des années 2000, ça n'a pas fait plaisir à l'État malais et ça n'a pas surtout pas fait plaisir à la cité-État singapourienne.
Vous parlez là d'actes de terrorisme.
Et Singapour s'est dit que avant la renégociation, mais je pense qu'il n'y aura pas renégociation, d'un accord de 100 ans qui date de 1960 et qui prend échéance en 2061, qui stipulait que la Malaisie fournissait à Singapour l'eau nécessaire à sa consommation, eh bien en 2061, Singapour, selon les prévisions, aura réussi ce pari hallucinant d'être autosuffisant en eau, puisque 75% de l'eau consommée à Singapour à cette date est prévue pour être produite localement à partir de ce faible niveau de ressources. Alors comment vont-ils le faire? Et comment ils le font déjà? Parce qu'aujourd'hui, 30% de l'eau consommée à Singapour est une eau qui vient de la réutilisation.
De l'assainissement, hein, on est d'accord.
Effectivement, c'est un cycle
c'est
fermé.
C'est la boucle, voilà.
C'est leur programme New Water. Ils sont à 30% aujourd'hui, en 2061, ils seront à 50%. Singapour, il y a une dizaine d'années, s'est lancé dans le tout dessalement. En 2060, ils seront à 25%. Donc, si vous rajoutez dessalement et réutilisation des eaux usées, vous êtes à 75% d'eau produite issue d'eau alternative. Si vous rajoutez à cela l'efficience dans les réseaux urbains, vous avez des taux de fuite à Singapour qui sont sans doute les plus faibles au monde. Vous avez des capteurs dans leur réseau qui sont les plus à jour du monde. Et vous avez cette attractivité que Singapour a su créer au niveau de la recherche internationale. Singapour est devenu en quelques années un hydro-hub asiatique et un hydro-hub mondial. Donc, quand il y a une volonté politique, quand on met de l'investissement sur la table, on arrive à faire en sorte de réduire cette vulnérabilité stratégique pour le bien de sa population et pour des questions de sécurité et de défense nationale. Est-ce que c'est transposable? Je le crois. Et ça sera, je pense, transposable à la Chine. Les Chinois sont très attentifs au développement du modèle singapourien parce qu'eux-mêmes, sur le nord-nord-est du pays, sont confrontés à des situations de stress hydrique particulièrement inquiétantes, sachant que sur cette partie nord-nord-est du pays, vous avez des niveaux en dessous de 500 mètres cubes d'eau par habitant et par an, donc les niveaux de Djibouti, de l'Algérie, vous avez quand même 40% de la population chinoise, donc 40% de 9,34 milliards d'habitants. Eh bien, la Chine sera demain, et je le crois très sincèrement, une grande puissance du dessalement. La Chine expérimentera la réutilisation des eaux usées, sera aussi une grande puissance de la réutilisation des eaux usées sur le modèle singapourien, et ne l'oublions pas, sur le modèle israélien. 80% de l'eau usée en Israël est réutilisée à des fins d'arrosage agricole, d'arrosage de piscine, d'espace vert, etc. Voilà, champion du monde dans ce domaine. Eh bien, les Chinois le feront également. Et les Chinois ont aussi fait un choix très important de transfert, hein, ces grands programmes de transfert des eaux du sud au nord.
Qui sont évidemment très coûteux. Alexandre Tête saurait nous en dire quelques mots en termes énergétiques, pour le coup.
Énergétiques, financiers, enfin bref, projet d'infrastructure. Mais c'est la grande tradition hydraulicienne, puisque il n'y a encore pas si longtemps, tout président chinois était de formation ingénieur hydraulicien.
En tout cas, cette réutilisation des eaux usées, Alain Boinet, c'est un exemple dont l'Afrique pourrait tirer le plus grand bénéfice.
Je pense qu'il y a des situations très diverses en Afrique, hein, mais 90% des eaux usées ne sont pas réutilisées ou dépolluées. Et vous savez que c'est en Afrique subsaharienne où se trouve le plus grand nombre de personnes n'ayant pas accès à l'eau potable, le plus grand nombre de personnes n'ayant pas accès à l'assainissement, avec des états qui peuvent être déstabilisés. Enfin, qu'on pense à la Côte d'Ivoire, qu'on pense au Nigeria, enfin des pays qui étaient des modèles démocratiques africains. On voit bien que c'est pas si simple. En revanche, sur l'accès, enfin la solidarité d'accès à l'eau potable et à l'assainissement, j'ai en tête un programme mené par Solidarité Internationale en République démocratique du Congo. La RDC, ancien Zaïre, c'est quand même l'Afrique verte. Il y a de l'eau partout. C'est pas l'eau qui manque. Simplement, 50% de la population n'a pas accès à l'eau potable dans ce pays où il y a de l'eau partout. Et nous avons construit une station de potabilisation d'eau, enfin une station de traitement de l'eau à Beni, qui est donc dans la région du Nord Kivu. Nous étions là pour l'urgence, puisqu'il y avait des combats dans cette zone, il y en a d'ailleurs toujours. C'est le maire de la ville qui est venu nous voir en nous disant « Nous avions un projet d'installation d'une station, que pouvez-vous faire ?» À l'époque, il existait des réseaux d'adduction dans le centre-ville, la rue principale, destinée surtout aux commerçants et aux gens qui pouvaient payer l'eau. Les groupes électrogènes qui permettaient d'aller chercher l'eau dans la phréatique, il y en avait 2 sur 3 qui ne fonctionnaient plus. Et donc, on a construit une station avec un système gravitaire, on est allé chercher l'eau dans les collines, on l'a traitée avec une station de rétrofiltration biologique, donc qui coûte pas cher en énergie, un peu de chlore à la sortie, et puis un réseau de plus d'une centaine de bornes fontaines, avec des fontainiers choisis par la population, là où se trouvent les bornes fontaines, des bornes fontaines de 10 mètres cubes. On a soutenu la Régie des Eaux, hein, qui est en charge de l'eau, généralement, en RDC. On a mis en place, ça s'est mis en place d'ailleurs assez naturellement, le comité des membres, parce que les femmes jouent un rôle très important, le comité des usagers. Et donc, ça s'est fait, bien sûr, avec la municipalité, avec la Régie des Eaux, non sans mal. On a commencé en 2003, vous voyez, on est toujours là-bas, sur la partie institutionnelle, c'est le recouvrement des coûts. Ce qui est très compliqué, c'est là qu'on voit qu'on est passé de l'urgence, on délivrait de l'eau potable gratuitement, mais avec des systèmes simples. Mais c'était pas suffisant pour toute la population qui n'arrêtait pas de se développer du fait de l'afflux de gens fuyant les combats dans les collines. Donc de plus en plus de monde, pas d'installation, donc les femmes, les enfants allaient chercher l'eau de plus en plus loin, avec tous les risques d'agression qui existaient, le fait que les enfants ne puissent pas aller à l'école. Les femmes, quand elles vont chercher l'eau, elles font pas autre chose, et souvent faire autre chose, c'est la petite agriculture familiale qui permet d'améliorer le quotidien de la famille, voire de vendre le surplus sur le marché. Enfin voilà, c'est tout un cycle de vie, d'économie, de survie souvent. Et finalement, ben voilà, on est passé d'une action d'urgence à une action de reconstruction, et avec un coût tout à fait abordable. Je crois que c'était à peu près $1 le mètre cube. Mais il faut savoir qu'un dollar, c'est le prix qu'une famille doit payer si elle emmène sa fille ou son fils au dispensaire parce que il a une diarrhée, quoi. Donc au fond, économiquement, investir dans le développement de manière générale et dans l'eau en particulier, on sait que ça a des vertus très positives en termes de développement.
Alors, avant de revenir au Forum mondial de l'eau qui s'est donc ouvert en Corée du Sud, j'aimerais qu'on revienne sur un exemple qui a marqué l'actualité ces dernières semaines. On a beaucoup parlé ces dernières années des risques géopolitiques, géostratégiques liés à l'eau. Il y a finalement quelques exemples au niveau des États qui viennent contredire les craintes. Je pense à l'accord survenu récemment entre l'Égypte et l'Éthiopie à propos du Nil, le Caire ayant finalement approuvé l'édification du barrage le plus grand d'Afrique, construit par Addis Abeba. C'est un exemple de coopération entre pays que cet accord entre l'Égypte et l'Éthiopie à propos du Nil, Alexandre Ted.
C'est un exemple très encourageant. C'est vrai que le bassin du Nil était souvent présenté comme un des endroits potentiellement où l'eau peut être source de tensions majeures, puisque l'Égypte est très jalouse de son eau depuis des millénaires, et que même sur le plan symbolique, l'idée, ne serait-ce que de la partager avec des zones qui étaient auparavant sous sa domination, était un point de blocage pour l'opinion publique et beaucoup de dirigeants. Et surtout, l'Égypte avait bloqué tout financement international de barrages sur les affluents du Nil, en l'occurrence le Nil bleu en Éthiopie, et donc maintenait ce statu quo. Et donc, l'Éthiopie a désormais trouvé l'argent pour autofinancer, notamment grâce à sa diaspora, et donc s'est affranchi finalement des règles du jeu de la coopération qui permettait des financements internationaux. Et on a beaucoup craint la réaction avec l'annonce de la construction, alors en deux étapes, en 2011 et 2013, de ce grand barrage du millénium, d'autant que l'Égypte était toujours en instabilité forte et que l'eau est un moyen extraordinaire, quoi, un vecteur potentiel au populisme ou pour fédérer et masquer des problèmes. On craignait un petit peu cette instrumentalisation de l'eau. Et cette visite, cet accord, donc il y a le 23 mars entre le premier ministre éthiopien et les deux présidents soudanais et égyptiens, va à l'encontre finalement de beaucoup de craintes et sans doute montre que, au-delà d'un certain niveau de tension, même verbale, la solution ne peut pas être dans l'affrontement. Donc c'est plutôt encore un signe de plus très positif, que l'eau est d'abord un formidable facteur de coopération à l'échelle interétatique. Évidemment, à l'échelle interne, c'est une source de tension permanente. Il y a des morts très réguliers dans beaucoup de régions du monde. Mais à l'échelle internationale, finalement, le conflit reste quand même une hypothèse très théorique.
Franck Gallant.
Non, cet accord va à l'évidence dans le très bon sens. Il a surpris tout le monde. Parce que rappelons-nous, il y a encore un an, deux ans, quand Mohamed Morsi était président de l'Égypte, vous aviez des tensions par voie de presse, par voie réseaux sociaux, très très importantes, puisque en avril 2011, effectivement, la première pierre de ce barrage Renaissance avait été mise en place par le Premier ministre Meles Zenawi, Premier ministre éthiopien, et il y avait une volonté véritablement de l'Égypte d'en découdre. Là, je pense qu'on a un maréchal Sisi, nouveau président égyptien, qui fait preuve de réelle politique, qui regarde au sud, ce qui est très intelligent de sa part, et il a tendu la main vers le sud sur une logique de coopération qui va dépasser le cadre de l'eau, parce que ce projet est avant tout un projet hydroélectrique. Aujourd'hui, l'Éthiopie a la capacité de devenir un grand hydraulicien au niveau régional, 2% de sa population rurale a accès à l'électricité, donc l'Éthiopie se devait de faire cet ouvrage. Et cet ouvrage risque, et c'est tant mieux, de bénéficier à l'ensemble de la région. Quand on sait que l'Éthiopie est devenue un tigre africain, un atelier de sous-traitance de nombreux pays asiatiques, et en particulier de la Chine, et je pense que la Chine est aussi l'un des grands gagnants de cet accord. Pourquoi ? Parce que la Chine a vu dans l'Éthiopie et dans le Soudan un partenaire stratégique industriel, mais aussi agricole. C'est pas pour rien que la Chine finance à hauteur de 5 milliards de dollars cet ouvrage qui sera le barrage Renaissance, qui sera, quand il sera terminé en 2017, le plus grand lac d'eau douce d'Afrique et le 13e barrage du monde quand même. Et la Chine certes regarde au sud, mais la Chine voit aussi dans ce nouveau pouvoir égyptien le partenaire stratégique qui garde le canal de Suez, si essentiel à l'approvisionnement énergétique de la Chine. Donc on voit que derrière cet accord, il y a beaucoup de choses qui ont dû se dérouler en coulisses. C'est une très bonne chose, c'est à mettre au crédit du maréchal Sissi, des deux autres présidents, du président soudanais Béchir et puis du premier ministre éthiopien. Mais derrière tout ça, je pense que l'un des gagnants est effectivement la Chine. Et étonnamment, les États-Unis sont assez absents, en tout cas y compris en termes de réaction sur cet ouvrage.
En tout cas, cet accord, il est aussi intéressant dans ses possibilités de trouver des terrains d'entente entre pays en amont et en aval d'un même fleuve. Alain Boinet, le Forum mondial de l'eau en Corée du Sud, quels enjeux et qu'est-ce qu'il faut en attendre ?
Alors, le Forum mondial de l'eau a lieu tous les 3 ans. Il est organisé par le Conseil mondial de l'eau, qui est une région internationale dont le siège est à Marseille. C'est pas une organisation qui fait partie de la famille des Nations Unies, donc c'est intéressant de voir que ce type d'initiative peut se développer, jouer un rôle majeur au niveau international. Et bien sûr, il organise le forum avec le pays qui accueille le forum, la Corée. Nous y serons présents, donc avec Jean-Marc Leblanc, qui est référent au hygiène, assainissement et solidarité internationale. Pour nous, premier enjeu, c'est que l'humanitaire soit plus pris en compte dans la problématique de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, parce qu'en fait, ça n'apparaît pratiquement jamais. C'est assez frappant de voir que finalement, on considère souvent le développement comme un long fleuve tranquille, où on ne peut aller qu'en progressant, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, les situations de rupture, dues à des catastrophes ou à des conflits, on les oublie pratiquement toujours, quoi. Or, ça concerne beaucoup de pays, beaucoup de populations, et nous, c'est dans ces pays, auprès de ces populations que nous intervenons. Donc, on souhaiterait que la dimension crise soit mieux prise en compte dans les agendas internationaux, notamment dans le domaine de l'eau, et puis que le processus que nous, on appelle urgence, reconstruction, développement, c'est-à-dire passer d'intervention type urgence, soit mieux pris en compte aussi par nos partenaires institutionnels. Que ça soit en France, que ça soit au niveau européen, au niveau international, pour l'instant, il y a beaucoup de gaps entre les phases d'urgence et de développement. Là aussi, c'est des mondes qui s'ignorent trop, qu'il faut rapprocher. En tout cas, nous, les humanitaires, on est pour ce rapprochement, parce que c'est essentiel. En sortie de crise, on a vraiment besoin de passer à utiliser de nouvelles techniques et de plus travailler avec les autorités locales, les populations, de façon à ce qu'on accompagne le processus ou de sortie de crise ou de sortie de catastrophe. Alors, il y a un enjeu majeur qui est la déclaration ministérielle. Il y aura sans doute plus d'une centaine, 100, 120 délégations. Et ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où on a obtenu qu'il y a un objectif faux dans les prochains objectifs de développement durable, maintenant tout l'enjeu, et ça c'est pas joué du tout, c'est de fixer des indicateurs qui sont, je dirais, simples.
Un exemple.
Alors, reposons le problème autrement. Ce qui semble acquis, c'est que, vous savez qu'en 2010, en juillet 2010, il y a une résolution des Nations Unies faisant de l'accès à l'eau potable et assainissement un droit humain. Mmh. Bon, évidemment, ça n'est pas le cas aujourd'hui. Donc la question, c'est, est-ce qu'en 2030, l'ensemble de l'humanité aura accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement? Et c'est probablement ce qui va être affiché comme objectif. À partir du moment où on affiche cet objectif, il faut qu'on se dise comment on va y parvenir. Et il faut qu'on ait des indicateurs et des ressources financières qui permettent d'y parvenir. Encore une fois, on parlait des sources d'eau améliorées. C'est le standard aujourd'hui utilisé par les Nations Unies. Je pense qu'il va y avoir un changement majeur parce qu'on sait qu'une grande partie des sources d'eau améliorées délivre une eau qui n'est pas potable. C'est pas de la faute des Nations Unies, évidemment, qui ont fait un travail remarquable avec l'OMS, l'UNICEF, c'est pas le sujet. Mais il faut changer d'indicateur. Il faut un appareil statistique élaboré pour pouvoir suivre ça. C'est quand même assez complexe parce que c'est partout dans le monde, y compris dans les pays où il y a peu de statistiques. Voilà, les indicateurs et les ressources financières qui permettront d'atteindre cet objectif d'un accès universel à l'eau potable et à l'assainissement pour tous dans le monde en 2030. C'est l'objectif.
Franck Galland, très rapidement.
On parlait des ressources financières. Moi, j'attends de ce forum que la communauté financière prenne conscience qu'aujourd'hui, elle se doit de soutenir que des projets ou que des entreprises qui font l'économie de la ressource en eau. En août 2010, le plus grand fonds souverain de la planète, le fonds norvégien, le NBIM, qui gère en gros 500 milliards d'euros d'actifs, a mis comme critère d'investissement éthique l'économie sur la ressource en eau. Et ça, je pense que c'était un très sérieux message envoyé au monde industriel. Et j'attends de ce forum, justement, que, certes, les décideurs politiques, mais aussi les grands financiers, les grands argentiers de cette planète puissent investir demain que dans des projets ou dans des entreprises qui font l'économie de cette ressource très très précieuse.
Alexandre Tête, en un mot.
C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire réaffirmer la dimension politique de l'eau, en refaire un enjeu de débat de société. C'est-à-dire que les choix techniques soient bien la conséquence d'un choix de société, de compromis sociaux, et ne soient pas adoptés par défaut. Parce que la technologie fait partie de la solution, mais elle n'est pas la solution par défaut.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Alain Boinet, fondateur de Solidarité Internationale, ONG française qui a fait de l'eau la pierre angulaire de son action dans le monde. Alexandre Tête, chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialiste de la gestion des ressources en eau douce et des politiques de l'environnement, auteur de L'eau, un bien, un droit, tension et opportunité aux éditions L'Harmattan. Et Franck Galland, directeur de ES2, cabinet d'ingénieurs conseil spécialisé sur les problématiques sécuritaires liées à l'eau et auteur de Le Grand Jeu, chronique géopolitique de l'eau aux éditions du CNRS. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook Géopolitique Le Débat, émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. À très bientôt.